Nous ferons savoir à ce moment-là qui sera le représentant de la mouvance présidentielle ou du PPRD. Nous supposons, par ces déclarations, que M. Joseph Kabila entend respecter la Constitution d'après les déclarations de M. Lambert Mende. Et je pense que le président, même dans sa conférence de presse, n'a jamais dit clairement qu'il n'allait pas se représenter. Mais on peut lire à demi-mot que ce serait le cas, notamment dans une dernière interview que Lambert a accordée à la Voix de l'Amérique pour dire que le moment venu, après un congrès, la mouvance présidentielle pourra savoir qui sera son prochain porte-drapeau.
Alors Francis Kalombo, Joseph Kabila s'est engagé à respecter la Constitution. Pourquoi l'opposition accuse-t-elle le président de vouloir s'accrocher au pouvoir ?
Merci beaucoup, madame. Mais je crois que lorsque quelqu'un vous dit qu'il va respecter la Constitution, il y a une différence entre respecter la Constitution et dire qu'on ne sera pas candidat, puisque cette Constitution peut être modifiée. Et en ce moment-là, en la modifiant et en se portant candidat, on dira toujours que j'ai respecté. Il faut comprendre à demi-mot. Lorsqu'on demande au président de la République, à l'opposition, de pouvoir dire qu'il ne va pas se présenter, c'est parce qu'on sait que même cette même Constitution, ils ne l'ont jamais respectée dans plusieurs cas. Donc, dire qu'on va respecter la Constitution, ça sous-entend, si on la modifie et que je suis candidat, c'est que je l'aurai respectée. Donc, vous comprenez un peu cette nuance, puisque le même porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, a dit aussi que en 2016, il y aura remise et prise civilisée en République démocratique du Congo pour la première fois. Malheureusement, les Congolais ont été déçus pour constater que nous sommes aujourd'hui en 2018 et cette remise et prise n'a jamais eu lieu. Ouais. Donc, on ne le croit pas parce qu'il n'y a plus personne de le croit. Et puisque si vous faites référence au point de presse que le président de la République a tenu dernièrement, vous avez vu vous-même, vous avez remarqué, vous, l'inquiétude de l'opposition, le président s'est étalé sur un programme qui va au-delà même. Il a fait mandat, mais il a dit nous allons faire ça, nous allons faire ça, nous allons construire ça. Il s'est projeté même au-delà de 2-3 ans. Donc ça veut dire que jusque-là, il n'a pas encore décidé de pouvoir lâcher.
Alors cette inquiétude, elle est partagée aussi par une partie de la société civile. À l'appel du comité laïque de coordination proche de l'Église catholique, des manifestations ont eu lieu dans le pays pour demander au président Kabila de s'engager à ne pas se représenter pour un troisième mandat. Ces marches ont été réprimées par les autorités, il y a eu des morts par balles. Idriss Fall, comment expliquer une telle escalade de la violence ?
C'est la méfiance. Je crois que déjà même le début du débat prouve que l'opposition d'un côté, les mouvements de la société civile comme l'UCHA, l'Église catholique, a commencé par Monseigneur Mosengo, ne font pas confiance aux autorités de Kinshasa. Donc, et depuis que M. Kabila a outrepassé son mandat, ça crée une situation où on a un président qui a dépassé son mandat présidentiel, mais qui reste toujours au pouvoir, et que les autres donc demandent à ce qu'ils disent qu'ils s'en aillent, ou bien même qu'ils partent maintenant, parce qu'à un moment donné, au niveau de l'opposition, il a été question de faire une coalition sans Kabila. Et que les gens de la mouvance présidentielle le répondent, écoutez, il faut attendre qu'on lui trouve un remplaçant d'abord. Donc c'est dans cette situation hybride où un président reste en fonction et qu'il n'y a pas d'élection. Donc ça ne peut que faire monter la surenchère et les enjeux, et surtout lorsque le gouvernement de Kinshasa décide d'interdire toutes les manifestations publiques et que chaque fois que les gens sortent pour braver cet interdit, bon, il y a eu des morts. Donc c'est une sorte de surenchère politique qui est là-bas par la rue et par la force. Donc je pense que ça va continuer pour encore longtemps au Congo.
Alors la commission d'enquête mixte sur la répression des marches recommande la levée de l'interdiction de réunions et manifestations pacifiques. Thierry Kamboundi, ces recommandations ont-elles une chance d'être suivies ?
Allô, je ne vous saisis pas bien.
Alors, ce que je vous demande, Thierry, c'est la commission d'enquête mixte sur la répression des marches recommande la levée de l'interdiction de réunions et manifestations pacifiques. Est-ce que vous pensez que ces recommandations vont être suivies ?
En tout cas, tout le monde l'espère, hein, parce que la recommandation de lever l'interdiction des manifestations ne vient pas que de cette commission mixte mise en place au ministère des droits humains. Rappelez-vous que dans tous les communiqués et de l'Union européenne et des différentes organisations et même des pays membres de la communauté internationale, il y a eu cette exigence, cette demande que les autorités permettent aux gens de s'exprimer librement, que les autorités permettent l'expression et l'organisation des activités politiques, mais en dernière minute, ça a toujours compliqué, ça a toujours coincé. Donc c'est une exigence qui devrait permettre de décrisper justement le climat politique. Vous savez, le comité laïque de coordination en a fait l'une des priorités, hein, lorsque elle a formulé des exigences pour appeler les gens à manifester. C'était entre autres pour ça. La décrispation politique dont on parle fait allusion notamment à la libération de l'espace politique, justement. Donc c'est une demande qui date d'il y a longtemps, c'est une demande qui vient de partout, mais malheureusement, en réalité, à chaque fois qu'il y a des manifestations, les autorités mettent toujours leur veto.
L'ONU, la Conférence épiscopale nationale du Congo et le représentant du pape dans le pays dénoncent des attaques ciblées contre l'Église catholique. Idriss Fall, l'Église joue un rôle central. Pourquoi ?
Ce n'est pas nouveau parce que pour ceux qui couvrent l'ancien Zaïre, déjà en 1989, ce sont des évêques qui avaient écrit un fameux mémorandum pour appeler Mobutu à démocratiser le pays, et que ça a conduit à la légalisation d'un parti qui était clandestin, qui s'appelait l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. On ira vers des conférences nationales, on ira vers des bras de fer entre M. Tshisekedi, Premier ministre, et M. Mobutu. Et le président de cette fameuse conférence nationale, ce n'était autre qu'un certain Laurent Mossengo. C'est-à-dire l'Église a toujours été présente dans tout le processus politique depuis le Zaïre jusqu'à la République démocratique du Congo actuelle. Et même sous Kabila le Père, l'Église était présente, parce qu'on se rappelle Monseigneur Catalico, en fait, comment Kabila l'avait traité et l'a relégué, je ne sais pas, dans une sorte de résidence surveillée, je ne sais pas où. Et qu'aujourd'hui aussi, c'est cette même Église qui décrète qu'il faut sonner les cloches pour réclamer un départ ou bien que le monsieur dise telle chose. C'est cette Église qui a organisé, en fait, tous ces dialogues qui a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'Église a tout le temps été présente dans la vie politique au Congo et dans l'ancien Zaïre. Donc, il n'y a rien de nouveau à ce niveau. Est-ce que cela prouve que l'opposition n'est pas assez forte, ou bien cela prouve qu'il y a une sorte de complicité? Ça, je ne saurais le dire, parce que aussi les catholiques, ce sont des Congolais comme tout le monde. Ils ont leur avis sur la vie politique et ils voient aussi l'évolution du pays, comme quoi qu'il n'y a pas d'élection et quelqu'un est au pouvoir, et ce qu'il voudrait, c'est avoir des élections démocratiques, qu'on puisse choisir un successeur à M. Joseph Kabila. Et ce n'est pas seulement les catholiques, parce que je pense qu'il y a un protestant, un pasteur protestant qui avait fait une sortie devant des membres de la famille Kabila le jour de l'anniversaire de la mort de Laurent Désiré Kabila, pour dire que quand même ce pays mérite mieux que ça, comme quoi qu'ils ont toutes les richesses. Et moi, je me rappelle qu'il citait l'exemple du Sénégal qui n'a pas d'eau et qu'il faut creuser à 300 mètres pour avoir de l'eau, et que dans un exemple, nous au Congo, même pour construire un bâtiment, on a de l'eau à 1 mètre. Et ce pasteur montrait qu'en fait ce pays n'est pas géré comme il faut. Donc je crois que le Congo qui est un pays riche, c'est normal que parfois ceux qui sont dans les lieux de culte sont obligés d'intervenir sur des choses politiques qui ne sont pas leur domaine, bien sûr.
Oui, on le voit d'ailleurs, pas seulement au Congo. Voyons comment les habitants de Kinshasa abordent ces élections. Alex Katikaitaï a tendu son micro au Kinoa.
Par rapport au chronogramme que la Chine nous a donné, jusque-là, il n'y a pas de quoi que ça me laisse croire qu'il y aurait élection.
Ils ont parlé de trois contraintes. hein, qui doivent être d'abord et avant tout levés pour espérer aller aux élections en décembre telles que prévues par les calendriers. Et parmi les contraintes, il y a les contraintes d'ordre sécuritaire, il y a des contraintes d'ordre financier et il y a des contraintes d'ordre législatif. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines zones d'insécurité en République démocratique du Congo. Et si l'on en tient à cette situation, je pense qu'il y aura un peu difficile d'organiser les élections à la date prévue.
Très difficile que ça soit libre et transparente, parce que il y a déjà une mouvance qui gère presque tout. Il y a déjà un camp politique qui s'accapare de tout. Il y a un camp politique qui organise des lois, qui refuse que les autres marchent. Il y a aussi de l'autre côté des gens qui se sentent lésés. Donc, à ce jour, dire que les élections en RDC, avec cette voie, que ça sera libre, démocratique et transparente, en tout cas, ça sera très difficile.
Les élections, pour être libres, pour être transparentes, pour être apaisées, doivent être préparées bien avant. La population devra être préparée. Les organisateurs, même, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui doit rassurer tout le monde aujourd'hui. Parce que c'est à elle que revient tout le pouvoir d'organiser ces élections. Si la Commission électorale n'organise pas bien des choses, en ce moment-là, les élections ne seront pas apaisées.
Officiellement, le dépôt des candidatures n'a pas encore débuté, on l'a déjà dit, mais des personnalités politiques ont déjà annoncé leur intention de se présenter. C'est le cas de Moïse Katumbi. Une quinzaine de partis de l'opposition se sont ralliés derrière lui pour la présidence. Jusqu'en 2015, il était un membre incontournable du PPRD, le parti du président Kabila. Alors, monsieur Kalombo, que peut apporter Katumbi de nouveau dans la course?
Ben écoutez, beaucoup de choses. Déjà, la première des choses, c'est de garantir et assurer aussi au peuple congolais qu'il y aura bel et bien élection et que l'opposition est prête pour aller aux élections, contrairement à ce que la majorité voulait faire croire aux Congolais. Maintenant, Moïse apporte le changement dans la gestion. Il l'a prouvé, puisque aujourd'hui, la seule différence qu'il y a entre Moïse Katumbi et les autres, c'est que Moïse a un bilan. Moïse a géré au Katanga, il a un bilan et il est prêt et il a posé son bilan et il a un programme. Et c'est ce programme-là qu'il veut pour pouvoir changer les Congo. Ensemble avec les autres, il réunit autour de lui plusieurs partis politiques. Nous avons plus de 200 demandes aujourd'hui de partis politiques.
Mais Moïse Katumbi vit en exil depuis sa condamnation dans une affaire de spoliation d'immeubles. Comment compte-t-il s'y prendre pour mener à bien cette candidature?
Ce qui est avantageux, c'est que le peuple congolais sait exactement qu'il y a une sorte d'injustice de chasse à l'homme. Vu ce que Moïse a fait et son intention de pouvoir briguer à la magistrature suprême, fait que le pouvoir actuel qui a tellement peur de ça, et il y a même le rapport de la CENCO qui les blanchit totalement. Donc je crois que c'est un secret des polichinelles aujourd'hui. Tout le monde sait que, étant donné qu'il est blanchi, on lui cherche. Donc Moïse Katumbi, c'est le meilleur. Et le Congolais attend que Moïse Katumbi rentre, mais c'est le pouvoir. Il ne faut pas que Moïse Katumbi puisse rentrer. Mais au fait, en réalité, il n'a même pas
besoin. Oui, on va, vous m'excusez, hein, Monsieur Kalombo, on va devoir continuer. Je vous propose qu'on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions.
Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine.
De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres,
nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. L'élection présidentielle en RDC, c'est le sujet de cette émission. Pour en parler, Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, Francis Kalombo, conseiller de Moïse Katumbi, et Thierry Kambundi, journaliste à Top Congo FM. À mes côtés, on a également Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique. Je tiens à préciser qu'on a essayé de contacter Lambert Mende, qui est porte-parole du gouvernement congolais, mais malheureusement, cette tentative n'a pas abouti. Donc avant de poursuivre cette discussion, hein, regardons ce que nos Facebookers ont à dire sur ce processus électoral. Alors, on a Bengi Polo qui est à Luanda en Angola. Kabila n'a aucune volonté d'organiser les élections. Actuellement, les massacres continuent en Ituri, ce qui sera un motif de report, comme en 2017 avec le Grand Kassai. Maurice Kimbele à Elisabethville en RDC. La candidature de Moïse ne passera pas et c'est le dauphin de Kabila qui sera président. Arrêtez de rêver debout. Et on a Stéphane Epanda. Avec une élection à un seul tour, l'opposition a le devoir de s'unir en vue de trouver un seul nom qui pourra nous emmener de l'autre rive vers une réelle démocratie. Alors avant de passer à un autre volet, hein, une question toujours concernant l'UDPS, et Thierry Kambundi, c'est à vous que je m'adresse. L'UDPS, l'UNC et le MLC, trois principaux partis d'opposition, sont prêts à coaliser leurs forces pour remporter le scrutin. Avez-vous des détails? Qu'en est-il exactement?
Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que ce jeudi à Kinshasa, il y a eu une réunion et autour de la table, il y avait une délégation de l'UDPS conduite par Félix Tshisekedi, qui officiellement est secrétaire national en charge des relations extérieures à l'UDPS, également candidat à la présidence pour succéder à son père, candidat déclaré parce que le congrès du parti, c'est à la fin de cette année, c'est à la fin de ce mois. Il y avait de l'autre côté une délégation de l'UNC conduite par son président Vital Kamerhe et une autre délégation du MLC, du Front pour le respect de la Constitution, qu'a conduite Madame Eve Bazaïba. Je rappelle que l'UNC et le MLC ont depuis plusieurs semaines maintenant organisé des rencontres en vue d'une coalition par rapport aux élections à venir, et c'est donc l'UDPS qui a rejoint ce bateau au terme de quelques heures de discussion. Un communiqué a été rendu public, lu par Mme Bazaïba, qui dit que ces trois forces politiques de l'opposition sont prêtes à mettre ensemble leurs énergies, sont prêtes à faire bloc en vue des élections à venir. Ils ont rejeté l'usage de la machine à voter lors des élections.
Alors Thierry, s'il vous plaît, on va parler justement de ces aspects techniques, hein, puisque vous mentionnez la machine à voter. Jean-Pierre Kalamba, vous êtes rapporteur de la CENI. Les conditions sont-elles réunies pour ces élections? Monsieur Kalamba, est-ce que vous m'entendez? Bah écoutez, si on n'a pas Monsieur Kalamba, je vais me retourner vers vous. Hein. Idriss, en 2016, on n'a pas pu tenir ce scrutin parce que le pays n'était pas prêt. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
Je pense qu'il y a, on est peut-être qui venait de le dire, il y a des enjeux sécuritaires, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux techniques. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la CENI pour expliquer la fiabilité de cette machine à voter. C'est ce que Thierry a abordé tout de suite. Il y a eu l'enjeu financier parce que en 2016, on disait que, en fait, les donateurs n'ont pas donné l'argent pour tenir les élections. Mais aujourd'hui, le prix du cobalt, dont la RDC est le plus gros producteur au monde et vend les deux tiers, bon, il a monté, et qu'il y a une semaine encore, le gouvernement vient d'adopter un code minier qui augmente, multiplie par 5 la taxe sur le cobalt. Kinshasa n'a aucune raison de dire qu'ils n'ont pas d'argent pour financer les élections. Maintenant, il y a un enjeu sécuritaire. Quelqu'un signalait tout à l'heure qu'on s'entretue dans l'Ituri entre Emma et Lendu. Au Kassai, c'est un calme relativement précaire après près de 3000 morts d'après l'Église catholique. Les affrontements pygmées bantous se poursuivent là-bas autour du lac Tanganyika. Les gens sont en train de fuir. Donc il y a des poches d'insécurité, sans parler des rébellions, mouvements, milices qui sont récurrentes dans le nord.
Et ça, d'après vous, est-ce que ça pourrait entraîner un report du scrutin?
Je ne sais pas pour l'Ituri. Je sais qu'en 1999 et 2003, il a fallu une intervention d'une force européenne pour arrêter les massacres là-bas. On parlait de 30 000 à 50 000 morts. Tu ne peux pas tenir d'élection dans cette poche-là si les violences continuent. Les rebelles ADF qui sont là-bas autour du territoire de Beni, qui kidnappent, qui tuent aussi, je ne pense pas qu'on puisse tenir des élections dans des conditions d'insécurité pareilles. Et c'est pareil pour les massacres là entre les Bantous et les Pygmées autour de la Tanganyika. Donc il y a des poches où, je pense, que sera difficile d'organiser des élections.
Mais des pays où en conflit, hein, il y en a malheureusement beaucoup dans le monde, et ça n'empêche pas forcément la tenue d'élections.
Mais c'est pourquoi je dis ça, ce serait la CENI de pouvoir répondre. Parce que, bon, dans toutes ces régions que j'ai citées là, parfois ce sont les Congolais eux-mêmes qui critiquent la présence de la MINUSCA, qui ne peut pas empêcher ces massacres. L'armée aussi, parfois, est débordée sur sa gauche ou sur sa droite, bon, qui ne peut pas empêcher les massacres. Donc, ça, ce serait à la CENI qui répond à cette technicalité. Est-ce qu'on peut organiser des élections sur l'ensemble du territoire national ou bien ne pas les faire dans quelques villages où la sécurité n'est pas garantie? Et il faudrait aussi pouvoir assimiler le matériel électoral, parce que je doute bien qu'un agent qui était parti faire du recensement dans le Kasaï qui a été tué, et que si l'insécurité redémarre là-bas, ce sera pareil pour aller amener le matériel électoral. Donc il y aura des poches où ce sera très difficile.
Très difficile. Alors justement, hein, Thierry Kamboundi, hein, je suis puni, je vous ai coupé sur la question des machines à voter. Voilà, je reviens vers vous, puisqu'on n'a pas la CENI. Donc ces machines prévues pour les élections, est-ce qu'elles sont au point, Thierry?
Elles sont au point, elles ont été commandées par la CENI qui s'est lancée depuis janvier dernier dans une campagne de sensibilisation à l'usage de la machine à voter. La CENI reçoit depuis quelques semaines maintenant différents partis et regroupements politiques en son siège dans la commune de la Gombe afin d'expérimenter ensemble avec eux la machine à voter. L'UDPS est passé, le MLC, l'UNC, tous différents partis politiques et de l'opposition et de la majorité présidentielle sont passés. Par la suite, la commission électorale devrait étendre cette campagne au niveau de l'ensemble du pays, car l'objectif, nous a dit d'ailleurs récemment le président de la commission électorale, est que avant le 23 décembre 2018, date prévue pour les élections, la majorité des Congolais puissent expérimenter la machine à voter.
Voilà.
Le président.
Alors, pardon, Thierry Kamboundi, encore, je vous coupe et c'est pour me tourner vers monsieur Jean-Pierre Kalamba. On a mentionné les conflits comme potentielle raison de reporter le scrutin. Est-ce que vous pourriez nous donner la position de la CENI sur cette question?
Si je vous ai bien suivi, vous semblez dire que la machine à voter, c'est une des raisons pour reporter les élections. Il n'en est pas question.
Non, je parlais des conflits. Les conflits dans l'est du pays pourraient-ils empêcher la tenue de ce scrutin?
À ce que nous sachions, nous tous, en 2006, le pays était plus que balkanisé, pratiquement. Il y a eu quand même des élections. En 2011, il y avait des poches de résistance à gauche et à droite.
Oui.
Je ne pense
alors,
pas.
Malheureusement, monsieur Kalamba, on vous entend.
Ça puisse être une raison.
Malheureusement, monsieur Kalamba, on vous entend très très mal. On n'a pas de chance, mais en tout cas, on a compris que vous avez dit que les conflits ont toujours existé et des élections se sont tenues auparavant. Voilà, hein, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Hein. Francis Kalombo, Thierry Kamboundi, Jean-Pierre Kalamba, Idriss Fall, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi et surtout à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.